Slate Podcast.
En photographie, faire naître une image demande de l'obscurité comme de la lumière. L'obscurité d'abord, pour développer les négatifs en chambre noire. La lumière ensuite, pour révéler la photo dans tout son éclat. Après de longues années dans la banlieue de son enfance, Eddie s'est un jour décidé à la quitter pour investir Paris. Et puis, avec un stylo et un micro, il a enfin réussi à devenir lui. Vous écoutez Transfert épisode 175, un témoignage recueilli par Vincent Pellegrino.
Je vis à Créteil. Je suis avec ma mère qui est technicienne de laboratoire à l'hôpital et avec un père qui travaille à la mairie de Paris. Je m'appelle Eddie. Et j'ai grandi dans un HLM qui a vu sur la ludothèque du quartier et un foyer où on voit tout plein d'enfants, d'adolescents qui jouent et qui font plein d'actions dehors, en bas de chez moi. La relation avec mes parents, elle est assez... Avec mon père, il n'y a pas tant de relation que ça parce que c'est quelqu'un d'assez... imperméable, on ne voit rien, on ressent pas trop d'émotions, il n'y a pas trop de choses qui se créent entre lui et moi. Donc une relation assez froide, assez distante, où le dialogue n'existe pas trop, la communication non plus, de fait. Et ma mère, beaucoup d'attachement avec ma mère, mais quand bien même une communication très difficile aussi. Je suis un enfant qui est vachement dans la réflexion, dans le questionnement, qui se pose beaucoup de questions sur lui, sur ses camarades de classe, sur son environnement, sur la relation avec ses parents. Je sais que je me questionne énormément sur toutes ces choses-là. Et il y a un endroit où je me retrouve assez naturellement, c'est un journal intime qui était un journal intime avec des dessins d'Harry Potter dessus. Enfin, je me retrouve à recevoir ça et à commencer à écrire dans ce carnet un peu justement tous mes états d'âme, tous mes questionnements, toutes mes dépressions aussi, parce que je suis un garçon assez sombre, assez noir, et ça je le découvre au fur et à mesure. Plus j'écris en fait mes peines et mes questionnements, mais c'est toujours un peu plus deep, toujours un peu plus sombre, et je me retrouve vachement dans l'élaboration et l'écriture de ce journal intime. C'est quelque chose que je montre à personne, que je relis même pas. Je me rappelle, il y avait des larmes, il y avait de la jalousie, de la haine, de la colère. Il y avait ce genre de choses-là. C'est un outil qui me sert à mettre un peu d'éclaircie dans mes noirceurs, justement. Je traîne à Créteil avec des garçons que je rencontre justement au foyer en bas de chez moi, qui s'appellent Ruben, Théo, Ismaël. On est une bande de quatre et on s'entend hyper bien et on sort tout le temps, soit le samedi, vu qu'on commence à grandir, on est adolescent, on va au cinéma ou on va au centre commercial Créteil Soleil qui est juste à côté de chez nous. On traîne, on lance des caddies dans les parkings, dans les descentes de voitures là, pour passer les étages. Et c'est la grande folie, on vit plein de choses ensemble. C'est vraiment ma grosse bromance de ce moment-là parce que on fait tout ensemble, on se voit tout le temps, on s'appelle par la fenêtre, on descend, même si on n'a rien à se dire, on est ensemble. Et c'est des potes avec qui on s'entendait de ouf. On fait tout ensemble, on se retrouve parfois dans des situations où on dort chez l'un chez l'autre, on se mate des films, on joue aux jeux vidéo, et parfois des choses de garçon arrivent, c'est-à-dire la masturbation. Et on se retrouve à se masturber ensemble. On est juste entre potes, on est juste en train d'expérimenter nos corps, on est juste en train de découvrir qu'on a une bite entre les jambes et qu'on regarde du porno et que ça nous fait des choses. On s'amuse, justement, il y a tout un truc de comparaison, mais c'est un truc très masculin, très viril. Hein. C'est genre qui est la plus grosse, qui se masturbe le plus longtemps, qui jouit le plus longtemps, c'est ces choses-là qu'on découvre. Ça passe par le rire, ça passe par la pudeur, mais c'est un peu dénué de sexuel à proprement parler entre nous. C'est vraiment limité, mais c'est comme si on fait un jeu de société ou un jeu vidéo. C'est purement dans la découverte, dans la curiosité, dans le jeu aussi, beaucoup de jeux. Et on joue à ça comme avec ma voisine quand j'étais plus petit, je joue à papa-maman, tu vois. C'est vraiment du jeu non sexualisé. Avec Ruben, Théo, Ismaël, on n'est pas du tout dans le partage d'émotions, on n'est pas dans l'intime, on n'est pas dans le cérébral, on n'est pas dans la réflexion de nos états d'âme, de est-ce que ça va, est-ce que ça va bien, est-ce qu'on fait semblant de quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose qui m'est très personnel, qui est dans ma bulle, qui est dans ma chambre, que je me crée quand j'écoute un peu plus tard les premiers albums de Adèle, où je me retrouve vachement dans sa solitude, dans sa tristesse, dans sa chanson. Et c'est là où je me retrouve un peu dans une espèce de confort d'aller chercher une émotion un peu lourde, un peu sombre. Et je me retrouve là-dedans en tout cas, et ça crée en moi de l'écriture. Ça crée en moi le fait de venir écrire des choses méga deep. Je suis sûr et persuadé que la para que je construis pour tous les gens autour de moi, c'est-à-dire mes parents, mes amis, l'école, le foyer, la ludothèque, fait partie de moi, et sûrement est moi, totalement moi. Mais j'ai pas du tout le recul nécessaire pour savoir est-ce que je mens en cachant à mon père, par exemple, que je joue au Barbie. Est-ce que je mens quand je dis que je suis pas du tout hyper émotionnel ou hyper sensible à mes potes et que je fais le gros dur en allant lancer des caddies. Est-ce que je mens ou pas? Un, je me pose pas la question. Et deux, je crois que je joue mon propre rôle et le premier rôle magnifiquement bien. Et j'adore ça. Il n'y a pas du tout de mensonge, c'est que j'ai l'impression d'avoir mon intime dans ma chambre où je me permets ma safe place, où je me permets de pouvoir aller creuser en moi et où je suis méga deep parce que j'ai l'impression de porter tous les maux de la terre. Et derrière, je joue le jeu qu'on m'autorise à jouer, qu'on me donne à jouer, c'est-à-dire mes potes qui me disent « faut être fort, faut être viril, on est entre couilles, viens on va faire ça, viens on va brûler les poubelles, ouais on fait... » Enfin tu vois, ouais ok, on joue ce jeu-là. Ma mère, mon père, ça parle pas, pas d'émotion, pas de dialogue, on échange de manière très froide, très indirectement, dans des mots sans son limite, que de la gestuelle, tu vois, ou des cris, parfois beaucoup de cris. Et à l'école, pareil, je cache tout quoi que ce soit, je montre rien. Je me demande pourquoi je suis aussi triste, pourquoi j'ai envie d'écrire que du noir, que du sombre, pourquoi je suis autant émotif, pourquoi il y a des larmes comme ça qui coulent, pourquoi j'ai un sentiment d'injustice, pourquoi j'ai un sentiment de ne pas pouvoir prendre les choses en main. Et en fait, au moment présent où je le vis, il n'y a rien qui laisse persuader que en fait, je joue un rôle ou pas. Je suis foncièrement moi dans toutes les choses que je fais et j'ai l'impression d'être profondément moi. Donc ma mère décide de me mettre en privé dans une école toujours à Créteil mais privée catholique parce qu'elle a peur que je tourne mal, parce que je fous rien et que mes fréquentations dérapent d'après elle en étant dans le public. Donc du coup, ça a été un scandale, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai dit non, je veux pas quitter mes potes, je veux rester dans cette école primaire-là. Et finalement, j'ai pas eu le choix. Donc on y est allé, on est rentré à l'école de Maillé. Et puis je découvre le collège, ouais, le collège, avec la popularité, la notion du populaire, ouais. C'est là que je le découvre énormément. C'est qui est cool, qui est pas cool. J'arrive à l'école et il y a un coin des populaires, c'est-à-dire il y a un angle avec une cage de foot et ils sont tous là et je comprends vite que en fait pour être cool faut être dans ce périmètre-là. Et moi je me fais d'autres potes au fur et à mesure, je rencontre énormément de filles qui seront mes meilleures copines pour la vie. J'apprends la fusion, le grand partage avec des filles. On va pas se quitter dès qu'on va se rencontrer au collège comme ça. Et petit à petit, on y arrivera dans ce périmètre des populaires. Moi, mon seul truc au collège, ça a été l'humour. Le petit rigolo. J'ai un petit surnom que mon prof principal adore me donner, c'est Kiki. Et malgré moi, je deviens les mascottes un peu rigolotes de la classe. Mais de manière un peu adorable, il y a un truc un peu mignon. C'est Kiki, mais oui, on l'adore. Et moi, ça me va énormément bien ce rôle parce que je fais rire la classe, je suis le chouchou de certains profs, j'ai mes copines avec qui on s'entend très bien et on est très proches. C'est toujours délicat la popularité parce que tu sais jamais si c'est malgré toi ou si tu l'as décidé ou si tu le veux. Je sais pas si je l'ai touché réellement. En tout cas, j'ai de plus en plus de groupes, de gens avec qui je traîne, différents. J'arrive à aller de groupe en groupe et être un peu le gars avec qui on rit, avec qui on s'entend bien, c'est cool. Mais je me sens assez bien dans l'élaboration de ces différents groupes-là et je tisse des liens avec différentes personnes qui, eux, par contre, sont aussi dans les populaires du collège. J'ai toujours un peu gardé un espace, ouais, comme ça, où je pouvais justement m'autoriser d'être un peu plus sombre, un peu plus... Et c'était important pour moi que cet espace d'écriture, de temps, je sais que c'était un gros, gros, gros refuge, ma chambre. Il n'y a pas de lien de cause à effet, en fait, entre le fait que je sois... Enfin, c'est un mood, quoi. C'est le jour, ouais, je suis avec des gens, je suis très bien, je fais des blagues, on s'entend très bien, c'est cool. Et puis le soir, je me retrouve un peu plus solo, et puis là, en effet, c'est moins la rigolade. J'ai toujours un lien particulier avec les garçons en général. À part Ruben, Théo, Ismaël, j'ai rarement su tisser des liens forts avec d'autres garçons. Parce que soit ils sont cons et il y a énormément de compétition, soit il y a de la moquerie énormément parce que je ne représente pas la typologie de garçon format norme, format de base. Du coup, il n'y a pas d'attirance, même qu'elle soit amicale, qu'elle soit... Il n'y a rien du tout de tout ça. Je fuis plutôt ces relations-là parce que je sais qu'elles peuvent être violentes pour moi, qu'elles peuvent être reloues, que j'ai pas envie de faire la guéguerre de qui est la plus grosse. Dès le début, je sais que c'est pas quelque chose qui m'amuse et c'est quelque chose plutôt qui me met en inconfort parce que souvent ils ont aussi plus de répartie que moi pour me retourner les blagues ou en tout cas ils veulent encore plus me redescendre, donc du coup je préfère être dans mon cercle que j'ai créé avec mes potes et avec qui on s'entend très bien. Il y a comme un échange hyper naturel, hyper fluide et un truc qui va de soi, pas dans la méchanceté, pas dans la critique, pas dans la compétition. On est juste là en train de se faire des blagues, même si on se taille, c'est naturel. Mais il n'y a pas de réticence. J'ai toujours eu de la réticence avec des relations masculines parce que je trouvais toujours que on pouvait pas se confier, je pouvais pas parler, je pouvais pas m'exprimer avec eux, aller au plus profond de ces sentiments. Ma mère veut que je fasse tout un tas d'activités extrascolaires, donc elle me met au basket, elle me met à la natation, tennis, badminton. Et je crois que le premier c'était le basket, et donc c'est des équipes avec que des mecs, fatalement. Et du coup c'est la première fois là où je me retrouve dans un univers avec que des garçons, qui en plus la compétition est rude, c'est à qui sera le plus grand, à qui sera le plus fort. C'est très compliqué pour moi de briller dans cet endroit-là parce que je rattrape aucune balle, parce que j'ai pas du tout l'intelligence de ce sport, de cette pratique-là. Et donc du coup, je suis totalement à côté. Et c'est pas très valorisant quand tu fais quelque chose où tu te sens le dernier des cons. Donc du coup, je dis rapidement à ma mère que ça me plaît pas du tout, je veux changer. Et donc j'en fais énormément. Le tennis, le badminton, j'ai fait aussi de la course. Voilà, j'ai fait tout un tas de sports, mais jamais je me suis senti valorisé là-dedans. Ma mère continue du coup à tester tout un tas de choses et un jour elle me propose des cours de théâtre. Je fais « Ah, pourquoi pas ?» et tout. Donc j'y vais. C'était dans une MJC à côté de chez moi, dans le quartier juste à côté, donc il fallait que je marche un petit peu. Ça s'appelle MJC La Lucarne. Et donc j'arrive et je rencontre Marie qui sera ma professeure de théâtre. Et là, j'arrive donc du coup dans ce premier cours où on essaye de faire de l'impro, on se tente un peu avec un groupe que je connaissais pas, de faire de la scène, de jouer, de tester des choses pour qu'elle voit aussi un peu notre niveau, nos groupes et tout. Et là, subitement, il y a tout qui prend forme en fait. Il y a tout qui brille, il y a tout qui se met en confiance. Je me sens exactement à l'endroit où je dois être, et c'est exactement là où je me plais, où je me satisfais, et où en plus on me le rend bien, parce que on me fait que des compliments et on me dit ah putain c'est bien, c'est naturel, ça gère, tu prends la lumière, il y a un truc quoi. Surtout le théâtre, ça apprend grave à s'assumer, à comprendre son corps, à comprendre, à projeter sa voix, à prendre confiance avec sa voix, à se permettre de jouer d'autres personnages, du coup qui te donnent aussi un peu confiance et qui te créent un espace où tu te sens valorisé. C'est un endroit où je m'affirme, où j'existe, où je prends toute la place et où je suis fier et content de moi de prendre toute la place. Toujours dans la continuité d'essayer tout un tas d'activités, je décide d'aller faire du chant dans une autre MJC d'un autre quartier à Créteil. C'était la MJC de la Haie aux Moines cette fois. Et je cherche des cours et je rencontre Horacio, qui est un prof de chant, avec qui on va hyper accrocher tout de suite et avec qui va grave m'aider et qui va grave me faire énormément de compliments sur ma voix, sur le timbre si spécial que j'ai, sur tout un tas de choses où il va me dire putain c'est cool et tout, et c'est même lui qui me dit va faire une école à Paris. Donc du coup, c'est les années collège, donc du coup, tout le monde commence à avoir des relations, des choses à raconter, croustillantes, du sexe, quoi, des choses qui se passent. Et du coup, rapidement, ma famille, mais même mes potes et tout, questionnent. On se questionne tous. Et toi, t'as une petite copine. Je suis à des dîners de famille et j'arrive. Et les premières questions, c'est « Alors, t'as une petite copine ? Elle est où ta petite copine ?» Et en fait, je ne sais pas quoi du tout répondre à ça. Je suis là en mode « Je bégaye de ouf, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment... » Et en fait, je commence à m'inventer une fille fictive qui s'appellera Sabrina. Et je décide de raconter une histoire qui s'est passé avec Sabrina pour que potentiellement on puisse me lâcher avec ces questions-là, avec ce poids-là. Il n'y a même pas de sens derrière tout ça. Il y a juste, en fait, j'ai juste envie qu'on me lâche avec cette question-là parce que j'ai rien à répondre et parce que j'ai plus envie qu'on me traite de puceau pendant très longtemps. En fait, tout le monde en avait, donc il fallait être comme tout le monde aussi, je crois. Il y avait un truc, tu dois être intégré au groupe, tout le monde te raconte ses premières histoires, donc forcément, il faut que je puisse... avoir la même histoire et raconter moi aussi ma première expérience, et puis qu'on arrête de... Il y a comme dans le collège, il y a comme énormément de moqueries vis-à-vis de tout un tas de différences, et le fait de pas avoir eu d'expérience à un certain âge pouvait en être une moquerie de plus. Donc j'avais pas envie de gérer ça. Au collège, il y a un gars qui assume son homosexualité, qui est vachement libéré, ouais, avec ça, qui est grave ok, et qui est grave moqué aussi à cause de ça. Il est pointé du doigt, on lui dit « Ah, t'es gay ». Je sais que c'est très dur, mais il est tellement dans son monde, il défend tellement ce qu'il est, et il ment tellement pas, je ressens quelque chose qui, inconsciemment, me dit... Il ne faut pas trop t'en approcher parce que potentiellement, on pourra dire la même chose, on pourra te questionner et tout et tout. Il y avait un truc tellement fatal dans le collège qui était très dur sur lui, que tout était cadenassé, tout était piégé. Et lui, on était la victime fatale de cette orchestration maléfique, tu vois. Et un jour, il vient me parler, on était à la cantine, on était en train de manger. Et donc tout le monde part pour aller débarrasser son plateau. Et là, il me fait « Toi, Eddie, je pense que t'es homosexuel, mais tu le sais pas. » Je recule et je dis n'importe quoi, et je crois que je pars, tu vois. Mais cette phrase reste en moi. Je l'ai reçue, je l'ai entendue, et j'avais l'impression de me prendre un peu tout ce qu'il représente en moi. Je me dis « Putain, je veux pas, je peux pas, c'est pas moi. » C'est faux, je suis dans le déni total. Comment est représentée l'homosexualité à ce moment-là, de ce qu'il représente et comment il en est victime, malheureusement. Je ne veux pas du tout faire partie de ça. J'arrive au lycée. Du coup, lycée, c'est l'horreur encore, parce que encore plus que le collège, parce que ma mère me remet dans un lycée public, parce que j'ai rien foutu non plus dans le collège privé. Donc du coup, elle a plus de thunes, elle me remet en public. Et là, j'arrive dans un truc où du coup, je connais personne, parce que tous mes potes ont continué dans le lycée privé. Donc je me retrouve sans personne, dans un bâtiment énorme avec trois branches, les L, les S et les STG techniques. Et genre, c'était l'enfer, parce que je savais pas où aller, je savais pas qui... j'étais vraiment perdu, je suis vraiment perdu à ce moment-là. C'est une période où je me questionne beaucoup, je m'enferme beaucoup, je me rappelle de moments où... je me mets dans les couloirs à rester dans mon monde, à écouter de la musique, mais je vais pas trop vers les gens. J'ai pas réussi à recréer un groupe comme au collège. Je commence à aller du coup sur des sites de rencontres parce que je me questionne, parce que je me demande est-ce que c'est pour moi. Je sais que mon porno a été très éducatif vis-à-vis de ma sexualité, donc je commence à déraper comme ça doucement sur des vidéos gays. Et donc je me questionne de plus en plus, c'est que ça marche, ça fait, il y a de la chimie, il y a quelque chose qui fait que ça réagit, que ça, il y a du désir qui augmente, il y a des choses qui arrivent en moi. Et donc je me décide de passer le cap et de tenter de rencontrer quelqu'un qui va faire que on va se rencontrer, peut-être que ça va faire quelque chose, quoi. Je vais sur un site qui s'appelle Zaguet et où je cherche des garçons dans mon réseau de ma région. Et donc du coup je rencontre sur internet un gars qui habite à Bastille et très vite on va se rencontrer et on aura nos premières relations très vite, très rapidement. Et ça sera ma première expérience. Je suis terrorisé, j'arrive là-bas, c'est un appart que je connais pas, vu que je viens de Créteil, aller à Paris, c'est toujours quelque chose où c'est loin quand même, enfin, ça se passe bien. Et moi, je suis un peu, je suis un peu choqué. Je me rappelle aller dans les toilettes pour faire un peu un état des lieux de ce que je viens de faire, ce que je suis. Pour moi, cette scène-là, cette soirée-là, c'est une validation de quelque chose. C'est genre, je me retrouve concrètement, physiquement, en train de braver l'interdit, en train de m'autoriser tout ce que je me suis jamais autorisé jusqu'ici. Et je me retrouve, face à quelque chose dont tout le monde dit que c'est un problème. J'ai fait quelque chose qui veut dire beaucoup, ouais. C'est ce que je me dis. Et je crois que je suis parti d'ailleurs très rapidement, parce que je suis un peu tout à l'envers. Du coup, j'ai mis quelqu'un dans la confidence, c'était ma cousine, qui était très proche de moi à ce moment-là, avec qui j'avais une relation quasiment comme si c'était ma sœur. On se parle beaucoup, et ça sera ma première confidente vis-à-vis de cette expérience-là. Je suis au lycée et je sais qu'il y a l'album Dans ma bulle de Diams qui sort et qui a été pour moi un album méga important parce que je l'écoutais mais H24. Quand je vais au lycée en bus avec le 217 et que je le prends et que pendant 20 minutes j'écoute tout l'album, j'ai la sensation d'entendre exactement tout ce que Diams dit dans ses chansons. J'ai l'impression que c'est ma vie, que c'est ce qu'elle raconte, que le fait qu'elle soit banlieusarde, qu'elle galère, le fait que... Enfin, tout ce qu'elle raconte, c'est moi. Je saigne à ce moment-là énormément cet album. J'ai longtemps comme culpabilisé de pouvoir aimer Lady Gaga ou des divas un peu de la pop américaine. Parce que j'avais appris ou on m'avait soufflé dans l'oreille que c'était interdit, en tout cas pour un garçon, de pouvoir écouter ces choses-là. Donc quand je découvre Lady Gaga et toutes les divas de pop américaines des années 2000, c'est pour moi quelque chose d'assez libérateur, parce que je vois en elle quelque chose que moi je pourrais jamais m'autoriser, qui est un peu comme une contre-culture de ce que je dois représenter et qui accepte en plus le discours. Elles ont un discours d'acceptation de tout le monde. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Ouais. Du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est assez drôle parce que je pense que ça a été vraiment le moment le plus fatidique dans ma vie. C'est que, donc après le bac, on doit choisir des écoles supérieures. Donc, il y a énormément de choix. J'étais un peu perdu vu que j'avais encore rien foutu au lycée. Et donc du coup, ma mère me dit il faut que tu t'inscrives dans des DUT, BTS, tous ces trucs-là en trois lettres et tout. Et je lui dis ok, mais moi c'est pas ce que je veux faire parce que j'ai mon prof de musique qui m'a dit qu'il croyait en moi et qui veut que j'aille faire une école de musique à Paris. Ma mère elle me fait mais tu rêves, on n'a pas l'argent, on vient pas de ce milieu-là, tu pourras jamais y arriver, faut être pistonné. Je fais ok, je m'inscris au DUT, je m'inscris à tous tes trucs que tu veux, j'en ai mis 8. Et si sur les 8, je suis pas pris sur le dossier, bah je vais dans cette école. Et là, il y a eu une force de je ne sais d'où, mais intersidérale qui nous est arrivée dessus, qui m'a pointé du doigt, une espèce d'étoile où, et attention c'est très fort, les DUT et tous les BTS m'ont refusé. Et là, j'étais là en mode... Ok, maman, on m'a refusé partout, il va falloir que j'aille faire cette école. On trouve le financement, je ne sais pas comment, mais on le trouve. Et puis je rentre dans l'Institut supérieur des arts de la scène, dans le 9e. Et là, j'étais comme un fou parce que je vivais en fait mon rêve d'enfant. Je commençais à 8h avec des cours de danse classique. C'était pas ça mon rêve d'enfant à la base, mais quand même, on faisait de la musique, de la danse, du théâtre. C'était undo stress, le bail. Et j'y allais tous les matins. Et je prenais mon métro et franchement je me rappelle de moments où dans le métro j'étais trop content d'aller faire une formation que je rêvais de faire et pour aller vers le métier de ce que je voulais être en fait. Je rencontre dans cette école mon premier amour qui a duré 3 ans et ça sera le premier amour que j'assume concrètement, que je présente à ma mère, qui vient à la maison, qui était complètement fou, mais ça c'est un détail. Et on a une bête de relation pendant 3 ans. Et à 21 ans, je me casse de chez moi pour ensuite faire des petits boulots, prendre un appartement à Paris et faire les bateaux mouches. Alors en parallèle de l'école, des conservatoires, tout le travail que je fais pour gagner ma vie, pour payer mon appart et pour me former, pour faire le métier dont je rêve, je me développe mon propre répertoire où je commence à me dire « mon gars, si tu veux... être visible, être entendu, si tu veux faire ça de ton métier, tu dois absolument écrire tes propres textes. Ça doit être ton récit, ça doit être ton histoire, ton intime, et pas l'intime écrit par les autres, pas l'intime de chansons un peu formatées. Tu dois exactement être ton jeu à toi, ça doit être ta représentation, ta façon de voir les choses. » Et ça, ça a été le plus dur parce que je déteste écrire, et je me rappelle que ça a été vraiment... laborieux, le fait de se dire dans un format, dans un il faut écrire une chanson avec couplet, refrain, enfin c'était très dur pour moi de me cadrer dans un format de chanson, de me mettre à l'écriture, et donc je galère énormément. Ça prend du temps, et donc je me mets des checkpoints, des deadlines, parce que je sais que j'avance beaucoup plus quand il y a des objectifs. Et donc, je me fais une première scène. C'est au Kibélé, rue de l'Échiquier. C'est un restaurant indien, ou un peu avec une cave en dessous, un peu pété. Et du coup, j'invite tous mes potes dans cette cave. C'était complet. Il y avait quoi, 40 places. Pour la première fois, je viens montrer mes chansons, des reprises aussi, parce que je ne pouvais pas tenir une heure ou je ne sais plus combien de temps tout seul avec que mes chansons, parce qu'il n'y avait pas assez. Donc du coup, je me forme un petit set avec une équipe de musiciens que j'avais aussi casté, que j'avais aussi rencontré. Il y avait des potes aussi à moi qui traînaient autour, voilà, pour faire un peu le premier show, le premier lancement du truc. Il y a des gens qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait trop de monde. C'est quelque chose, quand même, 40 personnes. Et là, ça me donne grave d'assurance, d'envie de continuer. Et petit à petit, comme ça, je vais continuer à écrire mon répertoire, je vais continuer à me donner des deadlines de scènes jusqu'au Trois Baudets, qui a été une scène aussi qui a changé un peu l'histoire de ma jeune carrière, parce que je commence à avoir un petit entourage que je me crée avec une pote qui était en études de management je lui fais, bah écoute, est-ce que toi, c'est ta formation, on échange, tu me manages, et puis toi, ça te fait ton bilan de cours. Et donc, c'est un échange de bons procédés, ça te fait l'expérience sur le terrain. Donc, on va un peu chercher des gens à droite, à gauche, des professionnels, dans tous les labels, dans tous les tourneurs. On va chercher un peu parler qu'il y a une date, il y a un événement au Trois Baudets, ce 26 février 2016. Et il faut que tout le monde soit là. Et il faut que ça soit complet. Et on va chercher partout. On va aller même jusqu'à Nantes, où il y avait des expositions de tourneurs qui se rencontrent un peu pour montrer leur catalogue, leur artiste, pour se faire un peu la cour. Moi, regarde mes artistes. On va faire jouer des trucs d'industrie musicale. Et je me rappelle, on va jusqu'à Nantes pour le jour J de l'exposition, pour aller tracter et pour aller vendre qu'il y a cette date, le 26 février 2016, au Trois Baudets, et qu'il faut qu'il y ait du monde, en fait. Et le 26 février arrive et on se retrouve avec la salle complète. Donc là, c'est 300 places, donc ça rigole plus trop. Et donc du coup, dans l'industrie, dès qu'il y a des petits événements comme ça complets, ça parle, bien évidemment, tout le monde se questionne. Et le lendemain, je me réveille, j'ouvre mon ordi et je vois une quantité de mails avec que de l'industrie, des gens de l'industrie professionnelle, indés, pas indés, des managers et tout, qui me disent... Et dit, il faut qu'on se rencontre, on veut travailler avec toi. Et là, ça a été hyper flatteur et ça a changé la direction. Ça a pris ce jour-là une énorme direction professionnelle parce qu'il y avait des gens qui croient au projet et qui veulent miser et y aller avec moi. Je saute comme un ouf dans mon appart, je saute partout. Franchement, je veux raconter des histoires qui n'ont pas déjà été entendues, qui n'ont pas déjà été récitées, racontées, surtout dans la chanson française. Donc, très rapidement, je comprends que mon histoire et mon récit de déconstruction masculine, d'homosexualité, de genre, tout de fait à outrance, je comprends en fait que j'ai pas entendu ça ailleurs, et donc je vais creuser ça pour avoir le plus d'originalité possible dans les thèmes abordés. Et donc je vais creuser, et je m'en rappelle toute ma vie, le moment où Kid est arrivé. Souvent ça arrive comme ça, par comme une énergie, comme un truc, tu le décides pas, et t'as une phrase qui se pointe comme ça dans ta tête, et je me rappelle que cette phrase est arrivée, et c'était « tu seras viril », et là je me suis dit « mais attends, mais mon gars, il y a un truc là, faut creuser, bien sûr que c'est ça, bien sûr qu'on m'a forcé à être viril pendant toute ma vie, jusqu'ici on me le force encore, il faut absolument que j'écrive là-dessus ». Et là ça découle, ça coule, et puis voilà, c'est toujours chercher en fait le « d'où tu pars », d'où tu écris et est-ce que ça n'a pas été déjà écrit auparavant. Même pour une histoire d'amour, est-ce que une histoire d'amour de la manière dont tu vas la raconter, est-ce qu'elle n'a pas été racontée déjà 10 fois? Toujours trouver l'originalité dans les thèmes que j'essaie d'aborder, le regard différent, le positionnement. Et moi, c'est ça tout mon travail, c'est de chercher des points de vue différents. Parce que je trouve qu'on est trop... était amené trop à écouter toujours les mêmes histoires racontées par les mêmes personnalités mises tout le temps en avant. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs typologies de gens qui puissent raconter leur histoire avec leur regard et tout ce qu'elles portent. Je suis bercé dans une culture très populaire, donc tous les chanteurs que j'aime, c'est des gens très populaires, qui du coup sont à la télé, enfin dans les magazines, donc j'ai eu toujours, tout le temps, cette culture-là. Donc pour moi, c'était évident que si je partais dans la musique, je voulais pas faire quelque chose de niche, je voulais parler aussi. C'était pas l'objectif premier, mais je veux qu'on me comprenne, je veux qu'on m'entende, je veux tenter de faire avancer ma vision des choses. Et c'est pour ça que la banalisation de mes termes et de mes propos était important pour moi, et que ça puisse toucher le plus de gens possible. Et ça, c'est toujours une question que je me pose quand j'écris une chanson, c'est comment ton infime intime à toi, ton plus petit toi possible, va toucher le plus grand nombre de gens possible derrière. Et c'est cet effet miroir assez fou, qui, quand ça marche, est la plus belle chose au monde qu'on puisse exister. C'est fou de raconter sa propre histoire et que ça touche tout autant de personnes derrière. Et pour la dimension politique par rapport à la sexualité, c'est vrai que je n'ai pas eu l'intelligence peut-être de comprendre précisément le poids politique tout de suite de ce que voulait dire une chanson comme Kid par exemple, ou quand je parle de sexualité ou de déconstruction masculine. Je me rendais pas compte comment potentiellement ça pouvait aider des communautés ou comment ça a pu aider des gens. Ça a été la grosse surprise pour moi. Je pensais qu'on m'aurait lancé des cailloux. Quand on est quelqu'un après de visible ou de public, forcément, il y a le fantasme, moi le premier, de ce qu'on veut ou ce qu'on attend ou ce qu'on prétend ou ce qu'on pense de l'autre. Et du coup, il faut essayer d'enlever tout ce poids-là pour être le plus libre possible. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Mon père découvre mon homosexualité sur le premier album. Enfin, je pense qu'il avait des doutes, mais on parle tellement pas que rien ne se dit, il n'y a pas de réponse, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien du tout. Donc c'est vraiment silence radio. Je ne sais même pas aujourd'hui comment il l'a reçu, comment il l'a entendu, est-ce qu'il a eu envie. Ouais, je sais même pas comment il l'a reçu. Je sais même pas s'il a tapé la tête contre les murs ou est-ce qu'il a dit « Ah, ben enfin !» Je sais pas. On est tellement pas dans cette relation de dialogue que je pense que je saurais jamais comment il l'a reçu, ce truc-là. Et je me rappelle, je sais que c'était un problème pour lui parce que quand on était petit, très petit, dès qu'on regardait la télé qu'il y avait des pubs, c'était le début des pubs un peu homo-érotiques. Et donc du coup, il disait « Ah, c'est dégueu !» Ils sont obligés de nous mettre ça à la télé. Donc je pense que, je sais pas, j'espère qu'il a grandi avec ça. Ma mère, elle l'a appris autrement, mais plus tôt. Mais j'ai pas envie de raconter ça. Je crois que c'est une histoire de déception, en fait. J'ai pas la force, et je l'ai jamais eu, de savoir parler à mes parents pour leur dire, bah écoute, je suis gay. Jamais. Et ça vient du non-dialogue ensemble, ça vient de la pudeur, de beaucoup de choses, je pense. La chose dont je suis le plus fier, c'est de faire un métier qui me permet de leur faire passer énormément de messages aujourd'hui et que j'ai tous les messages que j'ai pas pu leur faire passer quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, j'y vais, mais à fond. Et je balance tout de manière totalement impudique. Et peut-être que ça vient de là aussi. Quand on me parle d'impudeur, d'écrire mon intime le plus perso, de tout dire, on m'a tellement interdit et appris à ne rien dire dans mon intime, dans ma maison, qu'aujourd'hui, je pense en fait que j'ai envie de crier, de raconter mon histoire sur tous les toits. Ce serait le cadeau le plus grand, ouais, si ma musique touche des personnes et ensuite que ça les ouvre, ça les questionne, ça les bouge un peu de leur ligne et ça les fait peut-être penser autrement, ou en tout cas voir d'autres choses, d'autres récits, et ça les fait bouger. Ouais, j'ai tout gagné là-dedans, tant mieux. Si dans l'artistique, dans ces choses-là, ouais, on peut faire passer des messages et faire évoluer les mentalités au global, c'est notre plus beau cadeau, ouais, je pense.
Venez d'écouter Transfert épisode 175, un témoignage recueilli par Vincent Pellegrino. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Prise de son et montage, Guillaume Assal. Réalisation, Victor Benamou. Musique, Sable Blanc. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.